Chapitre 56. En détaillant les élégants bâtiments de pierre claire, Vincent avance entre les attelages et les hommes en tenue de cocher qui s'y affairent. Jean-Eugène Robert Houdin vivait ici. Je n'y suis venu que rarement, mais je m'en souviens très clairement. Emporté par ses souvenirs, il ne sait plus où se diriger et tourne la tête en tous sens. Pardi, j'étais tellement impressionné. La première fois, c'était pour lui présenter un projet auquel j'espérais être associé. Un escalier truqué dont il avait besoin pour son futur théâtre. Comment le savez-vous? Il avait été séduit par l'astuce que vous aviez proposée et m'en avait parlé. Cavel montre le bâtiment central. Il habitait là, mais à l'époque, il n'y avait pas tous ces fiacres. J'ai repris ses appartements et je me suis un peu étendu. Charles Addinson désigne la cour d'un mouvement circulaire. L'ensemble est désormais à nous, une véritable petite forteresse au cœur de Paris. Officiellement, une compagnie de transport avec fiacre, diligence longue distance et mal de poste. Accessoirement, la plus grande brigade privée de cochers. Pourquoi les cochers? C'est une idée de Jean-Eugène que j'ai développée avec mes compagnons de quête. Quel que soit le lieu, quelle que soit l'heure, personne ne s'étonne d'en voir. Leur uniforme les associe à une fonction simple que les gens identifient parfaitement. On ne se pose jamais de questions à leur sujet. On croit savoir qui ils sont et ce qu'ils font. Leur apparence le permet de se fondre n'importe où sans attirer l'attention. Exactement ce dont nous avons besoin. Je vous ferai visiter leur quartier si cela vous intéresse, mais avant, nous avons du travail. En pénétrant dans la résidence, qui a été celle de Robert Houdin, Vincent est saisi d'une émotion encore plus intense. L'immense hall d'entrée n'a pas changé et le renvoie au tout jeune homme qu'il était quelques années auparavant. Le magicien avait composé un décor fait d'énormes affiches de ses tours les plus célèbres, la femme coupée, le foulard aux surprises, la guillotine royaliste, l'oranger merveilleux, le prince de fumée et son chef-d'œuvre, le spectre volant et d'objets liés à ses illusions. L'imposant sarcophage égyptien couvert de hiéroglyphes trône encore au centre de la pièce, non loin d'un pilori avec ses fers rouillés et d'un lion empaillé aux yeux de verre et aux babines retroussées sur ses crocs effrayants. Au fond, pendent toujours de toute leur hauteur les somptueux rideaux de velours noir bordés d'un galon d'argent, semblables à ceux qui ornent le fronton des églises pour les funérailles des célébrités. Son goût de l'ironie avait même poussé Robert Houdin à faire broder ses propres initiales dessus, comme on le fait pour les défunts. L'esprit gothique et mystérieux du lieu n'a rien perdu de sa fascinante beauté. Vous avez tout gardé. Vous allez voir à quel point. L'ancien bureau de Jean-Eugène est aujourd'hui le mien. Venez. En franchissant le seuil, Vincent est envahi d'une étrange sensation, comme s'il accomplissait un voyage dans le temps pour revenir à ses débuts. Le voilà à nouveau immergé dans l'univers magique qui a éveillé sa vocation. L'agencement du bureau le surprend tout autant que la première fois qu'il l'a découvert. En lieu et place du traditionnel meuble destiné à l'écriture, c'est une longue table qui s'étire, couverte de lampes, de piles de livres reliés de maroquins, de documents dépassant de serviettes en cuir et de porte-documents. La bibliothèque qui domine la pièce est agrémentée d'une coursive où l'on accède par un escalier métallique en colimaçon. Partout, étagères et moindres recoins disponibles débordent d'objets étranges à l'usage inconnu, d'antiquités, de bibelots religieux ou ésotériques et d'accessoires des théâtres où se produisait l'illustre magicien. Le plus grand tableau de la pièce est un portrait en pied d'un trio de savants grecs vénérant une lueur surnaturelle apparue dans un ciel d'orage. Le visage de l'un d'eux exprime la peur, le second la fascination et le troisième l'admiration. Les trois sentiments que le magicien s'est toute sa vie ingénié à faire naître chez son public. Bien que le temps presse, Addinson sait qu'il doit laisser à Vincent quelques instants pour retrouver l'endroit à sa façon. Celui-ci s'avance timidement, comme s'il était encore ce jeune homme en visite dans un lieu où tout l'impressionne. Son regard navigue d'un point à l'autre sans autre logique que celle de l'escalade de la curiosité. De tout son être, il se sent ici dans son monde. Intérieurement, il réalise à quel point le lieu de création qu'il s'est bâti dans la cave de la pension, bien que n'ayant ni le faste ni la densité de celui-ci, procède du même esprit. Il s'approche de la table et effleure un sous-main sur lequel sont posés un encrier de porcelaine et des plumes prêtes à servir. On croirait qu'il va revenir d'un instant à l'autre. Il m'arrive de l'espérer. Addison s'avance. Il y a là les derniers tours sur lesquels il travaillait. Jean-Eugène était un génie. Beaucoup le copient, mais personne n'égale sa façon de concevoir son art. Il avait une vision unique des sciences et de la vie, une compréhension hors norme de la mécanique des êtres dont il s'amusait pour éblouir. Mais il était bien plus qu'un homme de spectacle. Je m'aperçois tous les jours de l'incommensurable savoir qu'il dissimulait derrière ses travaux officiels. « Vous vivez au cœur de son œuvre, » souffle Vincent. Son bureau est pour moi une sorte de musée que je respecte absolument, au point que je ne laisse à personne le soin d'y faire le ménage. J'entretiens cette pièce moi-même. Mais ce n'est pas là que je travaille, pas plus que lui ne le faisait d'ailleurs. Vincent hausse un sourcil. Charles le provoque avec malice. Pensez-vous vraiment qu'un être aussi complexe que Robert Houdin se serait contenté d'un bureau dans lequel on entre par une simple porte ? Vous voulez dire que... Vincent tourne sur lui-même. Un passage secret ? Addison hoche la tête d'un air entendu. Son intérêt piqué au vif, Vincent se met à passer la pièce en revue, en commençant par le sol. Peut-être une trappe dérobée, comme celle qui équipait les scènes où il se produisait ? Réfléchit-il tout haut. L'idée d'avoir à chercher un passage masqué créé par le maître lui-même pour son propre usage l'excite au plus haut point. Alors qu'il se prend au jeu, Addison est obligé de tempérer son ardeur. « Je suis navré, Vincent, nous n'avons pas le temps. Vous n'aurez malheureusement pas la satisfaction de le découvrir, même si je vous en sais capable, mais vous aurez le privilège de le partager, car hormis Robert et moi, à qui il a transmis son secret, personne ne sait. » Addison se dirige vers un meuble à cartes placé sous la grande toile représentant les trois savants. Les tiroirs, destinés à accueillir des plans et des relevés géographiques, font toute la largeur du meuble et sont assez plats. D'un geste, il invite Cavell à le rejoindre. « Ouvrez, je vous en prie. Je suis certain que vous apprécierez son sens inouï du détail. » Dans un des tiroirs, Vincent découvre des plans de machinerie scénique. Le suivant contient des cartes représentant l'Empire d'Autriche-Hongrie et d'autres pays européens. Addison lui fait alors signe de regarder avec attention. Il referme les tiroirs et pousse du pied la plinthe du meuble, tout en saisissant simultanément ce qui semblait n'être qu'un banal montant afin de l'actionner comme un petit levier. Alors qu'il tire dessus, un déclic annonce la mise en route d'un mécanisme. Addison recule, aussitôt imité par Vincent. Devant eux, le meuble s'anime. Avec une élégante fluidité, les différents rangements s'ouvrent graduellement, comme par enchantement, et finissent par former un escalier d'acajou dont chaque tiroir compose une marche. Les degrés ainsi agencés permettent de monter sur le meuble jusqu'au pied du tableau. Il y a quelque chose de fantastique à observer ce secrétaire détourné de sa fonction première se transformer pour un tout autre usage. Une fois que chaque élément a parfaitement pris sa place, le mécanisme s'arrête. N'est-ce pas merveilleux? Si ce n'était pas déjà ce que j'essaie de faire, ce prodige me donnerait à coup sûr l'envie de poursuivre la voie qu'a initiée M. Robert Houdin. Addison monte sur le meuble truqué comme s'il s'agissait d'un palier ordinaire. Installé à bonne hauteur, il décale le support d'une des lampes qui encadre la toile et presse une combinaison de motifs dorés sur le cadre. Déverrouillé, le grand tableau pivote et s'articule comme une porte. Addison désigne la pièce secrète ainsi révélée. Si vous voulez vous donner la peine. Sous le charme du stratagème, Vincent grimpe l'ingénieux escalier et pénètre alors dans un espace qui ne ressemble en rien à ce qu'il a pu connaître jusque-là. Comme si le bureau constituait une métaphore du visage officiel de Robert Houdin, il lui semble, en franchissant le seuil de cette partie secrète, qu'il s'aventure dans l'intimité de son cerveau. Une sorte de remise biscornue, un chaos foisonnant, structuré par des poutres massives auxquelles sont suspendues une multitude d'objets, dont le fameux fantôme avec lequel le magicien terrifiait des salles entières en le faisant voler dans les airs. Les murs de bois bruts sont entièrement recouverts d'éléments mécaniques, de croquis, de casiers d'archives, de boîtes alignées et soigneusement étiquetées. Ce n'est pas une chaise qui est installée face au plan de travail où s'accumulent outils et mécanismes d'horlogerie désossés, mais un fauteuil suspendu comme une balançoire. L'endroit est aussi envoûtant qu'un grenier garni de trésors, aussi chaleureux qu'une cabane cachée, aussi mystérieux qu'un repère de magicien rempli de tours. Le regard se perd dans ce désordre, qui n'en était certainement pas un pour son inventeur. Charles repousse un levier derrière eux. À l'extérieur, les tiroirs reprennent leur place et le tableau se referme. Plus personne ne peut soupçonner leur présence. Non sans une certaine émotion, Addison confie. « Depuis que Jean-Eugène n'est plus, je me suis toujours trouvé seul dans ce lieu. » « Vous préfériez cela ?»« Assurément pas. Je suis convaincu comme vous, Vincent, que seul ce qui se partage vaut la peine d'être vécu. Je suis sincèrement heureux que vous soyez ici. Merci pour l'honneur que vous me faites, Charles. Espérons que l'esprit de Jean-Eugène et l'émerveillement que son antre provoque en vous nous donneront l'inspiration et la force pour l'âpre combat qui nous attend. Chapitre 57. Vincent complète son croquis afin d'être certain que Charles comprenne bien la configuration des lieux et le principe du plancher qui s'incline. Installé dans le fauteuil suspendu devant le plan de travail, Addison semble malgré tout déçu. Il n'y avait donc aucun trésor caché derrière ce passage ? Aucun. Juste l'accès à un tunnel équipé de ces tubes et de ces lames vibrantes qui, dans le courant d'air, produisaient un hurlement digne des plus terribles monstres des légendes. Addison se frotte le menton songeur. Ceux qui ont conçu ce dispositif se sont donné beaucoup de mal. Avez-vous une hypothèse sur l'endroit où il mène ? Aucune. Avez-vous relevé des symboles ? Des emblèmes d'ordre de chevalerie ou bien des signes de société secrète sur l'arche de l'entrée ou même ailleurs dans le passage ? Pas la moindre marque. Charles se penche sur les esquisses et réfléchit à voix haute. Ce tunnel a donc été coupé par l'installation d'un collecteur d'égout. Ceux qui ont fait les travaux n'ont certainement pas eu conscience de ce qu'ils détruisaient. Les ouvriers affectés au nouveau projet dans Paris doivent régulièrement tomber sur d'anciennes galeries de carrière. Ceux qui ont creusé cet égout se sont probablement dit que c'en était une. Voilà l'exemple parfait des dangers encourus par ces lieux. Nous sommes typiquement face à l'un de ces massacres inconscients qu'occasionnent les aménagements urbains. En l'occurrence, la canalisation d'égout a seulement coupé le tunnel. Une étincelle éclaire le regard d'Addison, ce qui signifie que si nous le reprenons au-delà de la canalisation, il y a de grandes chances pour que l'on puisse poursuivre l'exploration jusqu'à sa destination, complète Vincent. Les deux hommes se réjouissent à cette idée, mais Addison s'assombrit vite. Les hommes de Minguier ont peut-être découvert l'entrée du tunnel dans la cave de la maison de Flamel. Ils peuvent parfaitement arriver à la même conclusion que nous et nous prendre de vitesse. C'est peu probable, même s'il leur venait l'idée de forcer le mur qu'ils ont toujours suspecté de s'écarter. Ils ne trouveraient que du remblai. Ils ne peuvent pas se douter que le chemin se situe en dessous. Nous avons donc une longueur d'avance sur eux. lorsqu'il m'a enfermé, Minguier a mentionné les véritables pouvoirs qui gouvernent le monde. Il a évoqué, selon ses propres termes, l'occultisme et la magie. Peut-être appartenait-il à l'une de ces sectes avides de trésors et de pouvoirs surnaturels. Son organisation est cependant plus redoutable que les habituelles bandes d'illuminés qui orchestrent des messes noires déguisées en grands prêtres. Ces gens-là ne vont pas jusqu'à éliminer leurs propres membres aussi violemment. Ils l'auront tué après notre évasion pour lui faire payer son échec. Sans doute ont-ils aussi voulu éviter qu'il ne soit interrogé par la police, puisque vous étiez à même de l'identifier. Ils ne laissent à l'évidence aucune trace. Addison fait quelques pas tout en réfléchissant et demande « Dites-moi, Vincent, vous est-il venu à l'esprit que cet accès secret qui utilise l'air comme artifice pourrait correspondre à l'entrée du dédale associé au vent ?» D'un mouvement de tête, il désigne le témoignage d'Ignace de Loyola, posé dans son coffret, ouvert sur la table près des esquisses de Vincent. Celui-ci acquiesce. Je n'ai fait le rapprochement qu'une fois dehors. Avez-vous remarqué un endroit où cette clé gravée aurait pu être utilisée? Pas un seul. Charles donne une légère impulsion qui a pour effet de provoquer le balancement de son fauteuil. Il suit pensivement des yeux le tracé du tunnel dessiné par Vincent. Soudain, il tourne le visage vers lui et demande « Que diriez-vous de retourner sous terre vérifier jusqu'où va ce passage ?» Chapitre 58. Le bien-être que lui procure l'eau fraîche coulant sur son visage agit comme un bain de jouvence. Se retrouver seul contribue aussi à sa quiétude. Torse nu, ruisselant, Vincent prend le temps de souffler. Il ferme les yeux, expire lentement jusqu'à vider entièrement ses poumons, puis inspire à nouveau. Il enchaîne ainsi plusieurs cycles, gagnant chaque fois en sérénité. Il se concentre sur les battements de son cœur. Pour quelques instants au moins, il maîtrise son rythme sans se laisser dicter d'autres tempos que le sien. Il repousse mentalement les images qui se bousculent dans son esprit. Le plancher qui s'abaisse, Henri terrifié, les grandes moustaches du rat, le bureau secret de Robert Houdin dans lequel Charles sourit comme s'ils étaient en train de disputer une partie d'échecs. C'est dans cet antre, en racontant à cet homme ce qu'il a vécu, que Vincent a finalement pris conscience qu'en dépit des circonstances, la découverte du passage secret de la maison de Nicolas Flamel lui avait offert l'un de ses plus puissants instants d'éternité. Ni les peurs qui se liguaient pour l'entraver, ni les incertitudes qui pesaient alors sur leur avenir, n'avaient réussi à le priver de cette enivrante sensation de vivre au-delà de tout. Cavell plonge à nouveau son visage dans la cuvette de faïence. Ses mains parcourent ses propres traits comme s'il avait besoin de les redécouvrir. Tant de choses changent en lui qu'il craint parfois de ne pas se reconnaître. Mais son apparence est restée la même. Il n'y a qu'au plus profond de lui-même qu'il se transforme. Il reprend de l'eau au creux de ses paumes et s'en asperge une dernière fois. Il savoure ses secondes fugaces, s'en délecte comme de ces rares petits bonheurs que les épreuves n'ont pas encore réussi à atteindre. Il lui faut ces minuscules vibrations d'une pureté absolue pour se rappeler qu'il est toujours vivant, que son existence ne se résume pas au fait d'être prisonnier d'un cauchemar. Il se souvient alors que pendant que lui bascule dans un monde dont il ignorait tout, la vie du plus grand nombre continue comme si de rien n'était. Vincent examine son reflet dans le miroir. Il étire son cou en enserrant sa mâchoire et se dit qu'il va sans doute devoir se laisser pousser la moustache pour modifier son apparence. Il ressemblera ainsi à la plupart des hommes, peut-être même une petite barbe. Mais combien de temps ce maigre artifice le protégera-t-il? Il attrape la pièce de tissu qu'il a posée près de la cuvette et essuie d'abord son cou. Il y met un soin inhabituel pour faire durer le moment de quiétude autant que possible, car il sait qu'ensuite, la réalité s'emparera à nouveau de lui. À un autre étage, il entend le rire de Gabriel. La voix de Pierre s'y mêle. Il plaisante. Ces deux-là partagent quelque chose qui devient chaque jour plus fort. Assez pour leur permettre d'oublier, lorsqu'ils sont dans leur bulle, la menace qui plane. Vincent ouvre la porte et tend l'oreille. Un pied sur le palier, il appuie une épaule sur le chambranle. À en juger par les paroles qui s'échangent et les bruits rassurants du quotidien, difficile de croire que la pension est une résidence assiégée. Gabriel a raison. Chacun fait sa vie. Les propos d'Henri se détachent soudain. Il insiste pour que Conrad lui apprenne à tirer. L'Allemand et l'Italien éclatent de rire. Le menuisier lui répond qu'il n'y a qu'une seule arme dans la maison et qu'il est préférable que ce soit lui-même qui s'en serve. Eustasio lui parle de prudence. Quel mot incongru par les temps qui courent. Vincent voudrait bien s'abandonner à cette ambiance chaleureuse. Il apprécie quand même d'en être le témoin, même s'il ne parvient pas à y participer. Il a souvent l'impression d'être le seul à mesurer l'importance du danger. Henri a failli mourir avec lui l'autre soir, et ce matin, il s'amuse. Vincent aimerait bien en faire autant, mais lui n'arrive pas à oublier. C'est peut-être là son drame. Il ne sait ni oublier ni fermer les yeux. Même les paupières baissées, il distingue encore clairement tout ce qui les guette. Jamais de répit, jamais d'insouciance. Bégel plaisantait souvent en lui faisant remarquer qu'il n'avait pas son pareil pour détecter ce qui cloche. Est-ce un talent ou une malédiction? Quelle que soit la réponse, cela n'en change pas le poids. Il souhaiterait plus que tout pouvoir se dire que ceux à qui il tient tant sont auprès de lui, en paix, avec assez de travail pour subvenir à leurs besoins et suffisamment de rêves pour avancer. Mais il n'y arrive pas. Ces bribes de quiétude qu'il capte, ces moments de chaleur partagée paraissent trop fragiles. Quelle que soit la façon dont il envisage la situation, aucun horizon ne lui semble radieux. Même s'il se refuse à lui donner trop d'importance, une voix sourde lui répète que la famille atypique qu'il s'est construite est en danger et qu'il ne pourra pas forcément la sauver. Se jeter dans la bataille reste encore sa meilleure chance d'y parvenir.